Europe 1.
17h,
18h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Très heureuse de vous retrouver pour Clap, votre rendez-vous cinéma du week-end. Ici, on présente, on échange, on critique parfois, mais surtout on partage autour du cinéma pendant une heure. Dans la première partie de l'émission, nous ferons le tour de l'actualité cinéma de la semaine marquée par le festival de Marrakech. Didier Alouche nous livrera son JT d'Hollywood. Et puis à 17h20, je recevrai l'acteur-réalisateur Roche Dizem pour parler de son nouveau film « Les miens ». Enfin, ils sont à mes côtés pour vous parler en dernière partie d'émission des films à voir absolument ce week-end au cinéma. C'est notre Franck Vallière qu'on ne présente plus.
Bonjour.
Mais cette semaine, il est tout content puisqu'il a en face de lui une nouvelle voix, celle de Sophie Rosemont. Bonjour Sophie.
Bonjour Laurie. Bonjour à tous.
Nouvelle copine.
Une nouvelle copine. Alors, on parle de quoi en dernière partie d'émission?
Il y a 19 sorties salles, je crois.
C'est une semaine très chargée.
C'est moins que 24 la semaine dernière, mais bon,
okay,
il y a plein de choses. Alors, on va parler
notre comptable, hein, Franck.
Contrôle de gestion, s'il vous plaît. Contrôle de gestion. À ce propos, vous n'avez pas rempli votre carnet RATP.
D'accord.
Hein,
donc, et vous-même, vous avez eu un coup de cœur, sinon?
Les femmes du square. J'aimerais tant trouver les mots pour vous persuader d'aller voir Les femmes du square. C'est dément, ce film.
Bah, vous avez à peu près 40 minutes pour les trouver.
Ah ben voilà. Okay.
Sophie?
Un gros coup de cœur pour Les Amandiers.
Ah,
mais
oui,
on va aussi parler des Engagés, de La Maison. Il y a effectivement beaucoup, beaucoup de sorties cette semaine.
On avait d'ailleurs, je rappelle, la semaine dernière, Valeria Bruni-Tedeschi pour parler des Amandiers dans cette émission, et également Eya Aydara et Léa Drucker pour parler des Femmes du Square. Voilà pour le programme de votre Clap qui commence maintenant.
Europe 1, 17h,
18h,
Clap.
Alors non, ce n'est pas la musique d'un film, ce n'est pas la musique du Festival de Cannes, ce n'est pas la musique de la Mostra de Venise. Cette semaine dans Clap, c'est une édition un peu spéciale puisqu'on va quitter le froid, la pluie, la grisaille de Paris. Enfin, je vous rassure, hein, Franck et Sophie, nous on ne quitte rien. Hein. C'est Julie Gélinet qui a tout quitté pour nous puisqu'elle nous emmène sous le soleil du Festival international du film de Marrakech. Alors, vous vous demandez peut-être ce qu'est le Festival de Marrakech. Eh bien, c'est un festival qui met à l'honneur le cinéma international et bien sûr aussi le cinéma marocain et plus largement arabe dans sa section du 11e continent, 14 films en compétition. Est-ce que vous connaissez, Franck et Sophie, la particularité de ce festival?
C'est quand même un festival qui convie énormément de nationalités et de pays différents, la Tunisie, la Suède, le Portugal, le Maroc évidemment. Donc c'est vraiment un festival qui brille par l'hybridité géographique.
Oui, alors ça c'est vrai, c'est une info qui est très juste, mais ce n'est pas la particularité de ce festival, c'est que ce sont...
Moi je sais, on peut manger des cornes de gazelle facile.
Ça aussi c'est vrai, mais c'est pas la particularité. Ah. Ce sont tous des premiers ou des seconds films de réalisateurs et réalisatrices. La jeunesse est donc au cœur de cet événement qui est d'ailleurs gratuit et ouvert à tous. Julia Ducournau, réalisatrice de Grave et Titane, hein, la Palme d'Or 2021 du Festival de Cannes, était présente pour une masterclass et forcément ça lui parle beaucoup.
J'en ai beaucoup entendu parler de ce festival. C'est bien un festival qui programme des premiers et des deuxièmes films, ce qui vraiment je pense voilà, pour est un écrin hyper déterminant pour des jeunes réalisateurs. C'est un festival jeune de par son public et de par les auteurs voilà, qui sont représentés ici.
Et elle, justement, a eu une palme d'or pour son deuxième film, Titane. De retour 2 ans après le Covid, les organisateurs ont vu les choses en grand pour cette 19e édition. Un jury prestigieux, Diane Kruger, Vanessa Kirby, Tahar Rahim ou encore Justin Kurzel, présidé par le maître, l'immense Paolo Sorrentino.
Je ne sais pas si le festival de Marrakech est vraiment différent des autres, parce que pour être honnête, je ne participe pas à beaucoup de festivals de cinéma. Je préfère travailler sur mes films. Mais c'est certain que le festival de Marrakech est un très bon festival. Quand j'ai fait partie du jury il y a 10 ans, j'ai vu des films formidables de personnes qui sont aujourd'hui de nouveaux grands réalisateurs. Cette année aussi, je vois des films très prometteurs.
Un jury 5 étoiles donc, énormément de personnalités. Beaucoup de stars ont foulé le tapis rouge cette semaine. James Gray et Tilda Swinton ont été célébrés pour un hommage à leur carrière. Et comme Julia Ducournau, Jeremy Irons, Léo Scarrax ou encore Ruben Östlund, le réalisateur de La Palme d'Or sans filtre, se sont confiés lors d'une masterclass en public. Et parmi toutes ces conversations, il y avait aussi, vous entendez la musique, Gabriel Yared, compositeur de musique qu'on aime beaucoup, qui a travaillé avec les plus grands, Jean-Luc Godard, Xavier Dolan ou encore Jean-Jacques Hano. Et il nous a d'ailleurs confié une anecdote, écoutez-le.
Quand je lis un scénario, je vois des images. Et quand je vois des images, j'entends des musiques. Je me souviens de conversation avec Jean-Jacques Hano pour le film L'Amant. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu entends pour le thème principal? Il me dit, oh, tu sais, c'est une histoire condamnée à l'échec entre un très beau Chinois de 32 ans et une jeune fille de 15-16 ans. Histoire simple et condamnée. C'est un peu comme un arpège en musique. Je dis, ah bon? Il me dit, oui. Da, 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 da. Ça, c'est un arpège. Da, 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 da. Et il est parti. Et j'ai commencé à réfléchir à ce qu'il m'avait dit. Eh bien, ces mots qu'il avait jetés avant de partir à son tournage m'ont inspiré pour écrire le thème principal de L'Amant.
C'est beau, hein ?
Magnifique. Moi, je veux une cassette de Gabriel Yared qui me parle le soir avant de dormir.
Franchement, c'est...
Une cassette, Sophie, qu'est-ce que c'est ?
Oui, je suis une vieille personne.
Non, elle n'existe plus, voyons. Alors, à côté de la compétition, il y a des ateliers, des projections dans les plus beaux endroits de la ville, comme le musée Yves Saint-Laurent, la place Jama Efna en plein air, des séances de gala qui étaient également au programme. Les spectateurs ont pu découvrir, par exemple, le nouveau Pinocchio de Guillermo del Toro. Quelqu'un l'a vu ici ?
Ah, c'est de l'animation, c'est ça ?
Oui, moi, je n'ai toujours pas vu.
On a très, très hâte.
Mais aussi La Syndicaliste, hein, c'est le nouveau film de Jean-Paul Salomé qui avait réalisé La Daronne. Il retrouve Isabelle Huppert pour un drame inspiré d'une histoire vraie. Elle se glisse dans la peau de Maureen Kernet, une déléguée CFDT devenue lanceuse d'alerte. Le réalisateur nous a confié à quel point il aime travailler, au qu'on le comprend, avec Isabelle Huppert.
C'est une vraie collaboration artistique, quoi. Il y a quelque chose de fort qui se passe quand on travaille ensemble. Et moi, je sais que ça me stimule, ça me donne envie d'aller dans des directions plus audacieuses, ça me donne des ailes, ça porte même toute une équipe, la présence d'Isabelle. Et je pense aussi qu'elle est contente que je lui amène des personnages comme ça assez forts, même s'ils sont radicalement différents. La Daronne, elle faisait cette traductrice, d'ailleurs franco-marocaine, qui traduisait du marocain. Elle a d'ailleurs oublié le marocain qu'elle avait appris à l'époque phonétiquement. Je disais, mais tu vas peut-être nous parler un peu marocain finalement. Et elle dit, non, je peux plus. Et donc, voilà, on était dans une comédie sur un personnage, etc. Et là, on passe dans un autre registre totalement plus noir et plus dramatique.
Il a rappelé également que les festivals sont très importants pour le développement du cinéma. On pourrait tous les écouter pendant des heures. C'était vraiment une édition riche en rencontres, en diversité et encore toujours en cinéma. Évidemment, on vous tiendra au courant du palmarès qui sera dévoilé ce soir par le président du jury, Paolo Sorrentino. Et on a déjà hâte d'être à l'année prochaine. Merci à Julie Gélinet, notre journaliste, qui avait la chance d'être présente à Marrakech.
Il faut que je te raconte un truc, j'ai fait un rêve trop chelou cette nuit.
J'étais seule dans une forêt la nuit, complètement perdue.
Patricia ?
Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Patricia Coma.
Je suis passé de businessman très puissant à vrai star de la télé à président des États-Unis à mon premier essai.
Scott, où étais-tu ?
Pourquoi et comment les choses se produisent ?
C'est toujours autant un crève-cœur d'écouter la voix de Gaspard Huyel. Je rappelle que le comédien est disparu brutalement il y a aujourd'hui 10 mois, le 19 janvier dernier, d'un accident de ski à seulement 37 ans. Et il est à l'affiche ce mercredi de ses deux derniers films. Vous venez de l'entendre dans Coma de Bertrand Bonello, où Gaspard ne faisait que prêter sa voix dans ce film, aux côtés notamment de Louis Garrel, Laetitia Casta ou encore Anaïs de Moustier. Mais surtout, on peut le voir dans le drame d'Émilie Nateff, plus que jamais, avec Vicky Crisp. C'est son dernier film tourné en avril 2021, en grande partie en Norvège. Je vous conseille vivement ce film.
Tiens, j'ai parlé avec Gérard. Il est d'accord pour que je vienne plus que 3 jours par semaine à l'atelier. Ça veut dire que le reste du temps, je peux être à la maison, je chine les cadres sur Internet.
Non, mais tu sais ce que j'y pense. Tu sais que je veux pas que ça change ta vie. Je veux pas que ça ait un impact.
Mais Hélène, ça a un impact sur ma vie. Ça a un impact sur mon travail, évidemment. Qu'est-ce que tu crois que je pars le matin et que je fais comme si...
Non, mais arrête avec ça !
Moi, je veux juste passer le plus de temps possible avec toi. C'est pas compliqué à comprendre, bordel.
Je suis là. Je suis pas dans un cercueil.
Alors bon, forcément, la thématique aujourd'hui est quand même lourde d'émotions. On passe de l'ombre à la lumière avec ce film. Franck Vallière ?
Vous vous souvenez de la phrase de Chirac, c'est beau, mais c'est loin. Ben là, c'est beau, mais c'est triste. C'est-à-dire que le personnage de Vicky Crisp doit mourir, c'est mourante, et en fait, va devoir lutter contre tous les stéréotypes liés au décès. C'est-à-dire, a-t-on le droit de préparer sa propre mort ? Quelles sont les réactions des proches si l'on accepte pleinement la possibilité de mourir et qu'on refuse tout le déni qui entoure sociétalement cette possibilité-là ? Ça les place, et Gaspard et Vicky Crisp, dans des positions impossibles. Il y a un climax de discussion, pour pas dire de confrontation, au bord d'un fjord, où chacun des deux assène ses points de vue. Tous les deux ont raison. C'est d'une beauté superbe.
Ça rappelle la thématique du film d'Emmanuel Berco, de son vivant.
Oui, alors le problème, c'est qu'effectivement, Berco s'est planté. Sophie Marceau, Dussolier, ça s'est planté. Est-ce que les gens ont envie d'aller voir des drames en salle ? Bon, en ce moment, je ne sais pas. Mais le film est très beau et semble ralentir, comme un rythme cardiaque d'une personne en fin de vie ralentie. C'est très beau, je trouve, ce film. Mais le problème, c'est comment inciter les gens à y aller.
Sophie.
C'est très beau et c'est très triste, effectivement. Et c'est d'autant plus triste qu'on voit Gaspard Ulliel à l'écran. Et on ne peut pas ne pas être bouleversé. Donc, non
autour
seulement il y a
de cette thématique de la mort.
Voilà, exactement. Il incarne là, en l'occurrence, celui qui reste vivant face à sa femme qui veut partir. Et il n'arrive pas à la laisser partir. Et finalement, c'est lui qui va mourir, nous, on le sait. Donc, forcément, pour le spectateur, il y a une espèce de double peine. Celle de voir cette femme en pleine santé qui doit dire adieu à ce qu'elle était et qui est atteinte d'une maladie incurable. Et voir Gaspard Ulliel vraiment au sommet de son art. Parce que son jeu est tout en subtilité, il est sublime, sa voix est magnifique. Enfin, difficile de contenir ses larmes.
Et il avait accepté le rôle pour supporter Vicky Krieps, dont il était très proche. D'ailleurs, Vicky Krieps se s'en est longuement expliqué en disant qu'ils étaient, selon elle, deux âmes sœurs.
Deux âmes sœurs.
Et du coup, ça rajoute un peu, pas la lourdeur, mais enfin, au côté empathiquement triste de cette histoire.
Voilà, Plus que jamais, qui est en ce moment au cinéma, sans transition. Lui, il est à Los Angeles et il nous donne des nouvelles du côté d'Hollywood. C'est le JT de Didier Allouche.
Europe 1.
Clap, le JT d'Hollywood, Didier Allouche.
Salut Laurie, salut à tous. Will Smith pourrait-il se remettre plus tôt que prévu de ça ?
Oh, wow ! Wow !
Après la fameuse baffe sur scène, Smith a été jeté au pilori d'Hollywood. La route de la rédemption s'annonçait longue et difficile. Et puis la semaine dernière, Apple a lâché la bande-annonce d'émancipation.
Papa ! I will come back to you !
Antoine Fuqua a tourné le film bien avant la gifle et visiblement, Will Smith y est formidable. Émancipation raconte l'histoire vraie d'un esclave évadé dont la photo du dos meurtri a provoqué l'émoi dans toute l'Amérique. Le film n'a connu que deux projections, l'une à Washington pour la NAACP, Organisation de défense des droits civiques, et l'autre à Los Angeles pour les potes de Will Smith, dont Rihanna et David Chappelle quand même. À chaque fois, les réactions sont dithyrambiques. Apple sortira le film en salle le 9 décembre. Alors, Will Smith pourrait-il être de nouveau nommé aux Oscars ? Ce serait, on l'avoue, assez incroyable. Mais ce serait aussi l'illustration ultra rapide d'un adage si vrai, personne n'est jamais vraiment fini à Hollywood.
Merci beaucoup Didier. Alors on a hâte de suivre tout ça, puisque moi je t'ai resté sur le fait que Will Smith était banni des Oscars pour 10 ans, quelque chose comme ça. Donc,
10 ans.
Moi je ne comprends plus rien.
Les États-Unis sont capables d'élire un président noir et de mettre Trump dans la foulée. Donc,
Bon voilà, on compte sur toi en tout cas Didier pour nous tenir au courant. Dans un instant, c'est Roche Dizem qui sera dans ce studio. Ne bougez pas, à tout de suite sur Europe 1.
17h, 18h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être avec nous à l'écoute de Clap et j'ai le plaisir cette semaine de recevoir un comédien réalisateur de grand talent qu'on aime beaucoup ici à Europe 1, c'est Roche Dizem qui est à mes côtés, bonjour.
Bonjour Laurie.
Alors Roche Dizem, Les Miens, c'est votre 6e film en tant que réalisateur, un film qui sortira, je le rappelle, le 23 novembre et c'est sans doute votre film le plus personnel. Expliquez-nous comment il est né ce film.
Alors il est né, il y a plusieurs étapes dans sa création, il y a eu cette première étape qu'on a tous traversée, à savoir le confinement. Mm-hmm. Qui a déclenché chez moi une forme d'introspection et une réflexion sur la suite à donner à ma carrière et sur ce que je n'avais pas encore livré. Et j'avais pensé que peut-être plus d'intimité, peut-être plus de sentiments dans mon travail serait le bienvenu et donc de raconter ma famille, pourquoi pas. Et est arrivé cet accident à mon jeune frère qui a été victime d'une commotion cérébrale, qui a complètement déséquilibré la famille dans sa façon de vivre ensemble et des rôles qui nous sont prescrits aux uns et aux autres. Cette commotion cérébrale a créé chez mon jeune frère un changement de personnalité qui l'a transformé en personne très agressive, assez violente dans les mots, irritable.
Qui dit tout, hein, qui est sans filtre.
Et cette vérité qu'on connaît, parce qu'elle ne vient pas de nulle part, l'a totalement isolé. Parce que plutôt que de les entendre, on a préféré le fuir. Et en tout cas, pour ma part, j'ai été la seule personne qu'il acceptait de voir. Et donc, ça a créé entre lui et moi une façon de se retrouver.
Et oui, c'est qui est beau,
c'est
aussi
ce que raconte le film, voilà, à peu près.
Et vous avez co-écrit cette histoire avec Maïwenn. Mm-hmm. On sent aussi sa patte, hein, dans cette écriture qui donne l'impression que tout est improvisé, alors qu'il y a évidemment un scénario derrière. On a l'impression qu'on vit, enfin voilà, qu'on est vraiment une petite souris spectatrice de vos moments en famille. Voilà, on a...
Ouais, le plus dur,
t'as pas l'impression d'être au cinéma.
Le plus dur, ça a été de constituer cette famille. Parce que je m'inspire de modèles existants, proches de mon entourage. Même très proche. Donc, constituer une famille de cinéma pour interpréter ces personnages, ça n'a pas été chose simple. Mais une fois qu'elle a fini par exister et que je l'ai vue naître sous mes yeux, en tout cas dans le regard de ma caméra, c'était assez formidable parce que je leur ai donné un espace de liberté avec à chacun d'entre eux une indication, c'est trouver votre place. Voilà, vous savez quel est votre rôle, vous savez quel est votre personnage, sa place dans cette famille. Donc, à vous de l'imposer, soit par un charisme naturel, soit au contraire en jouant des coudes, comme dans une famille, quoi.
Alors, vous dites, vous avez du mal à trouver cette famille, mais vous êtes quand même entouré, je disais, de votre famille de cinéma, puisqu'il y a Rachid Bouchareb, il y a Samy Bouajila, vous êtes entouré de votre propre fille aussi, qui joue votre nièce, Nina Zem. Donc, vous étiez quand même en famille. C'est quand même important, quand même, pour vous, qui est cette notion de famille.
En dehors de Samy Bouajila, qui a été vraiment l'acteur auquel j'ai pensé dès le début du processus d'écriture.
Qui joue ce frère qui est victime d'un traumatisme crânien.
Qui joue le rôle principal, absolument. Mmh. Pour les autres, ça a été des décisions spontanées. Donc, Rachid Bouchareb, c'est lors d'un déjeuner où d'un coup, je m'aperçois qu'il me rappelle mon frère aîné et je lui propose le rôle. Il n'est pas acteur, comme vous le savez. Mmh. Mais il se prend au jeu et il apporte ce personnage haut en couleur, très drôle. Il a un potentiel comique incroyable, qu'il ne soupçonne pas lui-même, donc ça le rend encore plus drôle. Voilà, c'est comme ça, des décisions qui sont de l'ordre plus de l'instinct que de la réflexion. Et j'aime assez ça parce que c'est assez vertigineux et c'est plutôt grisant.
Sur une échelle de 0 à 6, pour ce qui est de la fatigue,
4.
Pour ce qui est de l'impulsivité et de l'agressivité,
je te baise.
Quoi ?
C'est un trauma crânien franchement grave.
Il s'est passé quoi au juste ?
Je vais vous proposer un traitement nouveau. Et puis, il faut qu'il soit bien entouré sur le plan affectif.
Il est plus irritable, donc forcément, il est un peu plus agressif.
Elles sont nulles, tes vidéos étaient moches.
J'ai jamais vu comme ça de ma vie.
Et moi, j'aurais pu gérer, mais on me demande rien.
Tu fais pas attention à nous. En plus, tu te prives de bons moments.
Roche disait, ce film pose cette question récurrente, finalement. Est-ce qu'il faut tout se dire ? Est-ce qu'il faut tout se dire en famille, entre amis, en couple ? Voilà, c'est quand même l'éternelle question.
Vous me posez la question ?
Oui.
Non, je ne saurais pas y répondre, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que nous, on a été confrontés à cet accident qui nous a obligés, en tout cas, à se dire nos vérités. Mais c'est très difficile parce qu'on n'a pas été ni élevé, ni éduqué, ni je dirais même formaté pour ça. Donc c'est très difficile de dire à la personne qu'on aime ou de son entourage ou même parfois à ses collègues des choses qu'on pense instantanément.
Par exemple, vous préférez qu'on vous dise la vérité ou vous avez envie d'être préservé ?
Ça dépend de quelle vérité il s'agit.
Lorsque votre famille a vu le film, ils vous ont dit quoi ?
Il y a eu plusieurs commentaires tout aussi différents. C'est-à-dire que ma sœur, par exemple, qui est jouée par Myriam Serba, était enchantée. Alors elle m'a dit, elle joue super bien, elle me ressemble, je l'adore, j'adore cette actrice. Elle a été contente d'être représentée par Myriam.
En même temps, en plus, c'est un super rôle. C'est vraiment c'est le pilier de la famille, qui en fait même trop. Mais c'est un rôle, on a énormément de tendresse pour ce personnage.
Ouais, elle est l'âme du film, vraiment. J'ai un autre frère, lui, qui a été très frustré parce qu'il dit... Bah finalement, mon personnage apparaît assez peu parce qu'il se l'approprie après les personnages.
Bien sûr.
Et il m'a dit, mais je t'intéresse si peu. Donc, vous voyez,
c'est dur, ça.
Et puis, le personnage principal, joué par Samy Bouajila, donc quand mon frère a vu le film, lui, il a pleuré de la première à la dernière minute. Parce que ça a été quand même, pour revenir à quelque chose de plus sérieux, une parenthèse très douloureuse de sa vie qui a duré quand même 2 ans. Mais ça a été aussi un soulagement de voir ce film. Parce que le film est venu ponctuer cette page douloureuse de son histoire. Donc, il m'a remercié, tout simplement.
Alors, vous jouez Riyad, je disais tout à l'heure, c'est la célébrité de la famille. Il anime une émission de foot. Hasard, évidemment, je disais, on sait que vous détestez ça. Oui. Vous vous êtes fait plaisir. En même temps, donc, c'est un personnage, au démarrage du film, faut pas dire pas très sympathique, mais quand même assez égocentré. Il est en crise dans son couple, avec Maïwenn, dans sa famille. Qu'est-ce que vous avez mis de vous ? Pourquoi est-ce que vous l'avez voulu comme ça, ce personnage ?
D'abord, je ne voulais pas m'épargner, c'est vrai, mais quand on écrit un film, qu'on le réalise, qu'on joue dedans, si en plus on se donne le beau rôle du sauveur de la famille, bon, vous l'aurez compris...
c'est pas intéressant.
Mais ce qui était intéressant, en revanche, il me semblait, c'était cette mise en abîme de tout ce qu'on peut vous reprocher, de vos dysfonctionnements, de vos névroses, de vos travers. Et là, ça me semblait intéressant, c'est-à-dire que c'est ma thérapie, à travers ce rôle qui se transforme en démarche. Donc... oui, c'est ce que je voulais raconter. On a un statut particulier, nous qui sommes artistes, soit dans du cinéma, dès qu'il y a un peu de lumière sur
lumière.
Vous, ça vous parle peut-être, Laurie, je ne sais pas. Vous.
Un peu, beaucoup moins qu'à vous. Mais...
on a un statut particulier au sein de notre famille, parce que Vous savez, il y a ce truc un peu violent parfois d'être le frère d'eux, le fils d'eux, la femme d'eux. Et ça, je ne l'ai peut-être pas réalisé pendant très longtemps parce que j'ai oublié de regarder ou d'écouter. Et voilà, c'est une forme de mea culpa.
Oui, c'est ça, ouais, pour dire pardon à votre famille.
Un pardon, absolument.
Qu'est-ce que ça fait de diriger votre fille, Roche Dizem?
Ah, ça a été un moment assez étrange parce que elle n'est pas actrice, en tout cas, elle n'a jamais formulé de velléité, en ce sens, en tout cas.
Elle est formidable.
Ouais, merci pour elle, c'est gentil. Non, mais je suis assez fier d'elle. C'était assez étrange parce qu'en plus, elle a commencé, la pauvre, le premier jour de tournage, par une scène d'hystérie violente et de cris. Ça a été assez compliqué, étant donné qu'elle n'est pas... en tout cas, ce n'est pas sa vocation première. Et puis, elle a fini par me dire « Mais papa, tu sais, je n'ai jamais crié de ma vie. » Et moi-même, j'ai réalisé sur le plateau que j'avais effectivement jamais entendu ma fille crier. Donc, ça m'a permis de la découvrir aussi.
Ah, c'est génial.
De voir des aspects de sa personnalité qui m'avaient peut-être échappé.
Et elle le fait très bien, hein, de crier.
Ouais, mais ça a été douloureux pour elle. Ça a été douloureux, c'était un effort considérable. Elle a dû aller chercher très loin parce que ce n'est pas ce qui la caractérise.
Je rappelle que le film sort le 23 novembre. Et c'est drôle parce que vous êtes à l'affiche, c'est un petit clin d'œil amical, mais vous faites une scène dans le film de Gad Elmaleh, ouais, qui est en ce moment au cinéma, qui s'appelle Reste un peu. Lui aussi, hein, il propose un film différent, plus intime, entre fiction et réalité. Donc j'ai l'impression que vous êtes tous les deux dans une démarche finalement assez similaire, ouais, de vous livrer. C'est le bon moment pour se livrer,
oui,
un peu plus.
C'était d'autant plus intéressant que quand il commençait à préparer son film, moi j'étais en montage du mien. Donc, on s'appelait tous les jours. Il me disait, tu ferais comment ça, toi? Et puis, lui, il est allé encore plus loin parce qu'il a pris les vraies personnes. Il a pris ses parents, il a pris sa sœur. Tout le monde joue son propre rôle.
Oui.
Donc, on est presque dans un docu-fiction. Donc, c'est encore une autre démarche tout aussi intéressante et audacieuse.
Ouais. Et vous jouez Roche Dizem dans son film. Et la scène est très sympa. Roche Dizem, c'est aussi une très belle année pour vous. On a l'impression, enfin, de toute façon, vous le méritez, mais ça fait tellement plaisir. Il y a eu ce César, hein, pour Roubaix. Là, vous étiez à l'affiche des Enfants des autres de Rebecca Zlotowski, qui est un film magnifique. L'Innocent de Louis Garrel aussi, aux côtés d'Anne Grimbert, qui est aussi un film qui a très bien marché. D'ailleurs, on en a parlé. Donc là, très content. Cette semaine, il y a votre film qui sort. Vous êtes heureux, on peut le dire.
Ouais, c'est une très belle année parce que cette année, il y a eu aussi, on a tendance à l'oublier parce qu'il est sorti en janvier, mais Enquête sur un scandale d'État,
ah oui,
qui est un film que j'aime beaucoup et que j'adore.
C'est quand même à chaque fois des partitions toutes différentes,
ouais,
des rôles quand même très intenses et moi, de très beaux rôles.
D'abord, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance que ces metteurs en scène viennent me solliciter. J'ai la chance de pouvoir être confronté à une nouvelle couleur, une nouvelle façon d'aborder ce métier. Et j'y prends beaucoup de goût et ça entretient la flamme et la passion. Donc oui, je suis très heureux.
En parlant de passion, vous êtes président cette année de la 14e édition des Arcs Film Festival. Ce sera du 10 au 17 décembre. Vous serez aux côtés notamment de Jeanne Balibar ou encore Filippo Meneghetti. Il y aura également Cédric Clapiche qui sera invité d'honneur.
Là, ce qui m'a plu surtout, c'est qu'on va pouvoir regarder, oui, la quintessence du cinéma d'auteur européen. Mmh. Et j'ai hâte de découvrir, voilà, ce cinéma-là qui représente un peu aussi ce qui se fait aujourd'hui avec des auteurs impliqués, concernés, socialement, politiquement parlant. Donc tout ça, ça m'intéresse, oui.
On en reparlera dans Clap et on suivra votre palmarès. Je rappelle que Les Miens, votre 6e film en tant que réalisateur, dans lequel vous jouez évidemment, sera en salle le 23 novembre. Restez à mes côtés, on va parler, si vous êtes d'accord, des films de votre vie.
Je suis d'accord.
À tout de suite sur Europe 1.
17h, 18h, Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être toujours à l'écoute de Clap sur Europe 1. Je suis en compagnie de Roche Dizem, qui sera à l'affiche le 23 novembre du film Les Miens. Et Roche Dizem, vous serez d'ailleurs en avant-première, là vous continuez à faire des avant-premières ce soir, vous en avez une?
Oui, ce soir, si vous le voulez bien, on sera au cinéma de Saint-Ouen, qui s'appelle le 1789. Il reste encore des places, je présenterai le film et surtout je resterai après la projection pour échanger avec le public.
Et je pense que les débats après les projections du film doivent susciter pas mal de questions intéressantes, hein, parce que
des
ça parle à tout le monde, c'est sur la famille.
Ouais, et surtout des témoignages, beaucoup de témoignages personnels sur des gens qui ont été confrontés également à ça, le rapport à la famille. Ce qui est formidable, c'est que je sois en Vendée, en Bretagne ou en région PACA, la famille, ça parle à tout le monde et ça donne lieu à des échanges assez enrichissants.
Bon, bah, si vous êtes du côté de Saint-Ouen, allez débattre avec Roche Dizem, ça vaut le détour. Alors Roche, on va parler cinéma, on est là pour ça. Si je vous demande votre première grande émotion au cinéma?
Alors la première fois que je suis allé au cinéma, j'ai eu une petite hésitation. J'ai mis La Ruée vers l'or parce que c'est mon premier souvenir. Je me souviens, j'étais en vacances à Casablanca et entre la mer et le cinéma, c'était les deux occupations principales. Et je me souviens, voilà, de ce film de Charlie Chaplin qui m'avait subjugué. Alors j'ai une hésitation parce que Dans mon quartier à Drancy, il y avait un cinéma et je me souviens aussi que mon frère m'avait déposé devant la salle pour aller voir Les Dix Commandements, qui durait 4h30 et ça avait permis à mon frère de se libérer de moi pendant tout ce temps-là. Donc c'est mes deux grands souvenirs, ouais.
Mais c'est vrai que Chaplin, c'est magnifique. Comment parler de thèmes aussi tristes, mais de façon aussi lumineuse.
Ah oui.
Lui seul savait le faire, hein, ce sens du gag. Ouais.
Et puis cinéma muet. Hein,
cinéma muet, en noir et blanc.
Ça m'avait subjugué qu'on puisse être aussi parlant sans parole.
Votre séance de cinéma la plus dingue, je disais.
Ouais, À nous la victoire. C'était un film qui parlait de football pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et à la fin, ça se termine par un match de prisonniers contre des soldats de la Wehrmacht. Et il y a Pelé qui marque le but de la victoire en retournée acrobatique. Et là, il y a toute la salle qui se lève, mais comme si on était au stade. Et on s'est tous pris dans les bras parce que Pelé venait de marquer.
C'est génial.
C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on ne fait plus la différence entre ce qui se passe à l'écran et la réalité, et qu'on est complètement pris par l'émotion et le moment, ça c'est quelque chose d'assez inoubliable. Ça et les combats de Bruce Lee, c'est les moments les plus marquants pour moi.
C'est un des films cultes hein, sur le foot. D'ailleurs, vous pouvez le revoir hein, juste avant la Coupe du Monde qui démarre dimanche, c'est pas mal.
C'est à ce jour le meilleur film sur le foot. Hein. Pourtant, beaucoup ont essayé de faire mieux, mais peu y sont parvenus.
Alors, si je vous demande, Roche Dizem, le film qui vous fait le plus rire
Un film que je regarde toujours avec beaucoup de plaisir, c'est 40 ans, toujours puceau.
Ouais. Judd Apatow. Ça marche toujours.
Le cinéma de Judd Apatow et les acteurs qui sont les siens à ce moment-là, enfin on est plutôt dans la fin des années 90, début 2000, il y a un humour qui me plaît, un peu potache, où il arrive à mélanger l'absurde et le talent d'acteur. Là on parle de Steve Carell, je crois.
Oui.
C'est cette faculté qu'ils ont à aller très loin dans l'humour, mais tout en gardant une forme de véracité, d'authenticité dans le jeu. Et ça, j'ai le sentiment que le personnage est drôle à ses dépens. Et voilà, je suis très client de ça.
C'est quoi votre nom, dites-moi?
Et vous, c'est quoi?
Moi, c'est Bess.
Andy.
Waouh,
ça a marché 5 sur 5. J'ai littéralement rien dit et elle m'a trouvé fascinant.
On dirait que tu fais ça depuis des années.
J'aurais dû l'inviter à dîner.
Non, c'est ça le truc. T'attends que la graine pousse et ensuite, tu bines la plante.
Bon, alors après avoir parlé du film qui vous fait le plus rire, forcément, le film qui vous fait pleurer à chaque fois.
Ah, on revient toujours à Charlie Chaplin, le Kid.
Ah oui.
Le Kid, c'est cette séquence où on les sépare. J'ai même vu mon père couler une larme, quoi. Donc lui qui représentait pour moi la force, la puissance, c'est extraordinaire.
On est plutôt émotif chez les M ou pas?
Oui, mais on est pudique. Donc on essaie de cacher l'émotion quand elle nous submerge. Donc avec un film comme celui-là, c'est intéressant de voir ça. Je pense que même la personne la plus dure au monde finit par fondre en voyant un film comme Le Kid.
Et ce qui est intéressant, c'est que Le Kid, on le montre aux enfants. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs degrés d'interprétation et de lecture de ce film. Hein. Votre comédie romantique préférée?
César et Rosalie.
Ouais. Ah oui, bah là vous m'avez fait plaisir.
Pareil. Ce genre de comédie romantique qui ne vieillit pas. C'est important de ne pas vieillir. Quand on fait un cinéma intemporel, comme celui de Sautet, ça démontre le génie qui est en vous. C'est la force notamment de ces films. Et puis, Romy Schneider, Samy Frey, Yves Montand, des acteurs au talent, ils savaient très bien manier la dramaturgie de certaines séquences et à la fois nous charmer, nous séduire par leur sex appeal. C'était des acteurs qui avaient du sex appeal avec ces séquences où tout le monde a une clope au bec. Ça nous renvoie aussi à une autre forme de cinéma. J'adore ça.
Voilà. Alors à chaque fois qu'on parle de César et Rosalie hein, dans cette émission qu'on adore, hein, je rappelle les dialogues de Jean-Loup Dabadie, on ne résiste pas à l'envie de réécouter cette scène.
Ce n'est pas ton indifférence qui me tourmente, c'est le nom que je lui donne. La rancune, l'oubli. David, César sera toujours César et toi tu seras toujours David qui m'emmène sans m'emporter. Qui me tient sans me prendre et qui m'aime sans me vouloir.
Non mais c'est sublimissime.
Espace de commentaires.
Le film que vous conseillez à un enfant?
Moi c'est celui que j'ai conseillé moi à mes enfants quand ils étaient petits, c'est Retour vers le futur, le 1 et le 2 surtout. C'est d'une intelligence incroyable. Ce rapport avec le passé, le présent et donc aussi le futur, c'est d'une drôlerie exceptionnelle. Michael J. Fox, en plus ça me permet aussi de rêver. J'aime tout dans ce...
Vous leur avez offert après le skate qui vole.
Ouais. Non, mais ce qui est marrant aussi, c'est de voir...
On a presque ça hein, aujourd'hui.
Je crois qu'il y a un moment, il se projette en 2020 et des poussières. Et la façon dont il voyait notre époque d'aujourd'hui. Donc il voyait des voitures volantes, des chaussures qui se lassaient toutes seules. On n'en est pas encore là.
Non, mais bon, on a quand même quelques avancées.
Mais
qui
là
sont
où c'est
pas
bien
loin.
Vu, en revanche, c'est le méchant du film, à quel point il nous rappelle Trump, et dans sa façon d'accéder au pouvoir, la coupe de cheveux, tout y est. La vulgarité, la méchanceté, le cynisme. Là, par contre, c'était bien vu.
Et vous avez vu l'image qui est circulée il y a quelques semaines de Michael J. Fox avec Christopher Lloyd.
Très émouvant.
Ça, c'est très émouvant.
Très émouvant.
Si je vous demande une réplique culte, Roche Dizem.
Oui, c'est une réplique du parrain que tout le monde connaît. Je vais lui faire une offre qu'il ne peut pas refuser.
Viens ici, t'as mauvaise mine. Je veux que tu manges et je veux que tu te reposes. Et dans moins d'un mois, ce producteur d'Hollywood te prendra pour le rôle.
Non, c'est trop tard, ils vont tourner dans une semaine.
Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser.
Vous auriez presque pu nous la faire avec l'intonation, hein, mais bon, je vais pas vous embêter. Si vous deviez garder un seul film, ce serait lequel ?
Elles sont dures vos questions hein, parce qu'évidemment le but c'est pas de garder un seul film mais,
c'est dur
mais,
de choisir
j'avais mis, là, c'est encore une fois le cinéma qui a bouleversé aussi mon
cinéma
regard
voyou.
Sur ce travail c'est, il était une fois en Amérique parce que c'est une fresque parce que ça, étrangement on se projette très facilement sur l'enfance d'abord de ces personnages, ce qu'ils deviennent par la suite le cinéma de Sergio Leone hein, c'est Sergio
Leone. Bien sûr ouais.
Tout y est dans ce film, tout y est.
L'amitié,
la trahison,
l'amour,
l'amitié.
Oui, c'est ça.
On est dans une tragédie grecque revisitée.
Des relations brisées.
Et j'adore ça. Et ça nous fait rêver, nous, comme acteurs, de se retrouver aussi dans des rôles comme ceux-là, parce que ça permet de développer une palette de jeux. Avec tout ça, avec beaucoup de sobriété, c'est magnifique.
Alors là, on va passer à quelque chose de beaucoup plus léger. Votre bande originale de film préférée ? Vous
c'est
Grease.
Grease. Je l'écoute encore beaucoup aujourd'hui. Hein.
C'est vrai ?
Ah ouais, j'adore.
À quelle occasion ? Comme ça,
quand je fais du sport.
Ah, pas mal.
Ça me met la patate.
Est-ce que, pareil, vous connaissez la chorégraphie par cœur ?
Ah oui.
On est à la radio, donc je ne peux pas vous la demander, ça va ?
Non, mais si on était à la télé, je vous dirais de vous lever, on la fera ensemble, je suis sûr que vous la connaissez aussi.
Ah bah oui.
Je connais et la chorégraphie et les paroles.
Mais je n'ai pas amené ma combinaison en latex, alors je ne me sens
et pas...
Je
n'ai pas la banane.
Bah, c'est ça, donc bon, ce sera pour une autre fois.
Avec plaisir. Cause I need a man.
Allez-y.
And my heart is set on you. Let's shape up.
Mais moi aussi j'adore, ça me fait bien plaisir. Je vous remercie de m'avoir cité ce film. Pour terminer, Roche Dizem, quel serait le titre du film de votre vie ?
Nous nous sommes tant aimés.
Ah, c'est beau.
Ah oui, Torres Cola. Le titre est beau, hein. C'est important les titres.
Bah oui.
Rien que le titre donne envie de voir le film. Mais quel serait le titre de votre vie ? Ça pourrait être aussi une épitaphe. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Je ne retiens que les gens qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé, qui m'ont fait grandir, qui m'ont tiré vers le haut. Donc nous nous sommes tant aimés, ça résume assez bien tout cela, quoi. C'est une belle philosophie.
Et l'amour, c'est quand même le moteur de tout.
Oui. Oui, mais c'est aussi des emmerdes. Hein.
Oui, c'est surtout des emmerdes. C'est aussi, hein. Mais c'est comme ça qu'on savoure le reste. Ouais. Je rappelle, Roche Dizem, donc la sortie le 23 novembre au cinéma des miens. C'est votre nouveau film qu'il faut absolument aller voir. C'est une déclaration d'amour à la famille dans tous ses états.
Oui, c'est bien résumé.
On va tout de suite écouter justement la chanson de Grease, You're the One That I Want, la bande originale de votre film préféré. Nous, on va se retrouver dans un instant pour tout vous dire sur l'actualité des sorties salles. Merci beaucoup, Roche Dizem.
Merci, Laurie.
À tout de suite sur Europe 1.
Better honesty.
You're the One That I Want, bande originale du film Grease. C'est la bande originale préférée de mon invité du jour, qui était Roche Dizem. Surtout, ne bougez pas. Dans un instant, Franck Vallière et Sophie Rosemont vous diront tout ce qu'il faut savoir de l'actualité des sorties salles. A tout de suite sur Europe 1.
17h, 18h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes bien à l'écoute de Clap et c'est maintenant l'heure des sorties cinéma. Alors au programme, une nounou extraordinaire, une bande de jeunes comédiens flamboyants. Anna Girardot, comme vous ne l'avez jamais vue. Et puis on parlera aussi évidemment de la sortie du film de Gad Elmaleh avant de terminer par un film engagé sur les migrants. Depuis le début de cette émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Franck Vallière et Sophie Rosemont. Ça va ?
Très bien.
Sophie, pour sa première fois à nos côtés. Alors on va commencer par le box-office. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Un tsunami, une déferlante, une razzia ?
Bah, un million et demi en 4 jours.
Quoi. 1 692 183 spectateurs. En une semaine, c'est évidemment le carton de Black Panther. Bon, ensuite Avatar arrive le 14 décembre. Ça va redistribuer les cartes. À la deuxième place, la principale nouveauté de la semaine, c'était Couleur de l'incendie de Clovis Cornillac avec Léa Drucker. 300 000 personnes, c'est pas mal.
C'est une grosse première semaine même.
Et puis, oui. Et puis en troisième position, on est ravis, hein, Mascarade, le film de Nicolas Bedos. 200 000 spectateurs supplémentaires, ça fait un total de quasiment 600 000 entrées en 2 semaines. Ils approchent le million.
Très impressionnant.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que le public arrive à faire la différence entre le bashing professionnel lié à Nicolas Bedos et la qualité intrinsèque du film. Donc ça, c'est pas mal.
Allez, on commence notre tour d'horizon des sorties salles avec la comédie pétillante, touchante, qu'on a adorée, Les Femmes du Square de Julien Rambaldi. Léa Drucker et Yehia Hidara qui étaient à nos côtés la semaine dernière pour en parler. Je vous rappelle l'histoire. Angèle, le personnage que joue Yehia, s'est empêtrée dans plusieurs galères et devient alors nounou pour payer ses dettes. Elle va découvrir le quotidien de ces femmes dont le travail n'est pas toujours bien encadré et elle va décider de les aider et de tout chambouler.
Si vous avez besoin d'argent, je connais quelqu'un qui cherche une nounou et qui propose un logement qui va avec.
Tu m'as acheté un pain au chocolat ?
Pardon ? Bienvenue au squat.
Dites-moi, ici, ça se mélange pas trop, on dirait. Hein.
Les nounous, c'est comme le foot, chacun son club.
Les filles, on arrête de se faire enfler maintenant. Hein.
Je voudrais voir Maître Sarr.
Maître Sarr, c'est moi.
Je vais la défendre, ta copine.
Merci, hein. M'attendez pas à tomber sur un avocat sympathique.
Et l'avocat sympathique, c'est Ahmed Silla. Franck, c'est un gros coup de cœur.
Il faut aller voir ce film. Voilà. Ça a l'air d'être une comédie sociale. On dira, on va encore nous culpabiliser, sur on maltraite nous. Non, c'est bien plus que ça. C'est très drôle, c'est très émotif. C'est le premier véritable grand rôle d'Yehia Hidara qui porte ça. Mmh. Mais comme Pam Grier portait Jackie Brown. Et d'ailleurs, elle est filmée comme si c'était Tarantino qui l'a filmée par Julien Rambaldi. C'est sublime ce film. Chaque petit rôle, c'est une comédie à l'anglaise. Donc même les tout petits rôles sont extrêmement soignés. On rit, on pleure beaucoup, mais on pleure pas de tristesse, on pleure parce que c'est émouvant.
Puis on pleure pas trop.
Vous, allez voir, prenez des places pour Les Femmes du Square, allez voir Black Adam si vous voulez, mais prenez des places pour aller voir Les Femmes du Square.
Ok, le message est passé, on va écouter tout de suite vos réactions.
Très bien, j'ai trouvé drôle, assez vrai dans ce qui se passe dans certaines familles et tout, donc non, j'ai apprécié.
Une comédie, mais d'actualité que j'ai vraiment très appréciée.
Moi j'ai bien aimé l'actrice principale, elle est géniale. Hein. Puis Ahmed Silla, enfin, toute l'équipe en fait, tous les seconds rôles, enfin, je trouve que le film est vraiment bien.
Très touchant, ça donne une autre image des nounous.
C'est très très bien joué, puis bon, non, c'était sympa.
On continue maintenant avec le nouveau film de Valeria Bruni Tedeschi, Les Amandiers, un film mi-fiction, mi-autobiographie sur cette promotion de jeunes comédiens du prestigieux théâtre des Amandiers avec Louis Garrel dans le rôle de Patrice Chéreau, le célèbre et redouté metteur en scène. C'est une comédie dramatique, très émouvante, mais surtout bourrée de vie à la fin des années 80.
Et tout ce prix là.
C'est le centre de l'Europe, ce théâtre.
L'important, c'est le travail. C'est pas la présence sur scène.
Tu sais, je suis fou. Faut que tu le saches.
Tout le monde est fou.
Soit vous menez une vie normale, soit vous devenez actrice. Et là, vous brûlez vos vies.
Un jour, il va plus te retenir. Un jour, il va plus être profondément gentil et tu vas rien comprendre.
C'est pas un passe-temps de jouer, c'est pas rien.
Qu'est-ce que j'aime cette bande-son.
On adore que des choses des années 80 dont on se lasse pas. C'est vraiment un des points forts du film, mais ce n'est pas le seul point fort, Laurie. C'est vraiment... Moi, j'étais complètement emportée par cette troupe, celle de Chéreau, ô combien mythique. Il y a eu des pièces absolument démentes jouées à l'époque à Nanterre. Et puis, tous les acteurs sont incroyables. Alors déjà, Nadia Tereskiewicz, quand même, qui fait partie des nominations des révélations des Césars.
Oui, des prénominations.
Et voilà, là, on... Voilà, on croise les doigts très très fort pour elle, mais après tous les acteurs et les actrices sont incroyables, notamment Clara Breteau, hein, donc c'est le premier film. Et puis après on peut s'amuser aussi au jeu de qui est qui. On retrouve, là on sait que c'est Agnès Jaoui, là on sait que c'est Vincent Pérez, là on sait évidemment que c'est Valeria Brunet-Tedeschi, même si elle dit que Stella n'est pas son double, mais tout de même, elle lui ressemble beaucoup, cette merveilleuse Nadia. Et puis il y a un acteur que moi j'aime beaucoup, j'avoue que je suis complètement dingue de lui, c'est Michel Lescaut, qui incarne Pierre Romance. Alors l'ami Michel Lescaut arrive, on tombe par terre. Et c'est un film vraiment plein de fougue. Le montage est extrêmement rythmé, la musique est forte. Et en même temps, il y a aussi cette tristesse, cette panique autour du sida qui est montrée.
Oui, c'est ça, et c'est en pleine émergence du sida. Donc ils sont tous insouciants. Et en même temps, il y a quand même cette angoisse qui plane.
Oui, la liberté, le couperet, qu'on ne maîtrise pas vraiment complètement. Et tout ceci reste vraiment contemporain. C'est pas du tout un film nostalgique. Et voilà, il y a des milliards de raisons d'aller voir. En tout cas, moi, j'étais complètement emportée, touchée, bouleversée par les Amandiers.
Non, mais je suis d'accord. Mais moi, je suis resté sur un goût un peu amer. C'est-à-dire que je ne nourris aucune mythologie par rapport à Chéreau, qui a fait de très bons films. Les Amandiers, je n'ai pas connu. Je reconnais.
Mais en même temps, l'école a duré seulement 2 ans.
Oui. Non, mais je reconnais à Valeria Brunet-Tedeschi déjà la chance d'avoir été aimée par Chéreau, contrairement à Agnès Jaoui, dont un personnage du film est assez largement inspiré, ou c'est la seule personne à qui Chéreau dit « mais tu ne m'inspires rien ».
Voilà. Terrible cette scène.
Et, alors, on ne va pas refaire l'histoire, mais si on avait confié Les Amandiers à Agnès Jaoui, elle en aurait fait un film sur le harcèlement moral et la misogynie. Et il se trouve que Valeria Brunet-Tedeschi a eu la chance d'être aimée et de participer à cette époque-là. Il nous livre dans une douce partialité le sentiment d'une époque qui révolue, parce que maintenant tout est beaucoup plus sage, on dirait. Les années 80 étaient encore pleines de fougue. Alors, et en plus, tout ça est exacerbé par le système de ces jeunes gens qu'on pousse à exacerber leurs sentiments, qui eux-mêmes sont sous tutelle de gens qui... D'ailleurs, Tedeschi ne s'en cache pas, elle ne fait pas une hagiographie de Chéreau, elle montre certains de ses travers. Certes de manière douce et gentille, mais...
Pas très douce et pas très gentille. Elle ne montre pas Patrick Chéreau sous ses meilleurs côtés.
Mais ça aurait pu être plus violent aussi. Donc il ne s'agit pas de critiquer ce qu'elle en fait. Il s'agit de dire que moi, je suis ressorti de ce film avec une espèce d'amertume en me disant c'est vrai que maintenant l'époque est molle et en même temps, tous ces jeunes gens qui sont un peu utilisés dans le cadre des Amandiers sont les témoins d'une époque et de méthodes qui sont maintenant plus applicables. Maintenant, on célébrerait le travail avant tout, avant l'excès, la déviance.
Et là, etc. C'est aussi un hommage à la jeunesse, à tout, enfin voilà, à cette fougue, à la passion, au métier de comédien. Et c'est vrai que tous ces jeunes acteurs sont absolument formidables. Et ça lui tient à cœur, Valeria. Elle espère pouvoir faire émerger des talents avec ce film. Donc, on leur souhaite à tous un beau parcours.
Nadia Tereskovitch avait joué la maîtresse ou l'amante de Valeria Brunet-Tedeschi dans Seules les bêtes de Dominique Moll. Et je pense que c'est là qu'elle a percuté sur l'immense talent que porte cette jeune comédienne.
Au-delà de sa beauté.
Oui.
On va écouter justement vos réactions.
Excellent. L'actrice qui tient le film, excellente. Très bonne découverte.
On voit l'envers du décor, ce que je de tous ces artistes, alors qu'habituellement, bien sûr, nous on voit l'autre côté et c'est ça qui était très intéressant.
Les acteurs jouent admirablement bien.
C'est mon époque, là, les années 80. Franchement, j'ai trouvé ça mais tellement beau, tellement tendre, tellement émouvant que je suis super contente de l'avoir vu et en plus d'avoir emmené mon ami.
Dans un autre style, on parle maintenant de La Maison d'Anissa Bonnefond, qui avait jusque-là réalisé des documentaires. C'est son premier long-métrage pour le cinéma. Elle adapte le roman d'Emma Becker qui avait infiltré une maison close. C'est Anna Girardot qui incarne brillamment ce personnage. Elle devient Justine et se prostitue pour écrire son prochain roman sur cet univers qui l'a étrangement fascinée. C'est un film clivant, il est interdit aux moins de 16 ans, très immersif.
J'ai eu une certaine quantité d'idées à la con dans ma vie, mais il me semble que celle-ci a toujours été là. Plus ou moins consciente. Vous allez vous demander ce qu'une jeune auteure comme moi fait dans un endroit pareil. Est-ce que j'ai vraiment voulu y rentrer pour écrire mon livre ? Ou mon livre n'était qu'un prétexte ?
Sophie, c'est son plus beau rôle, hein, Anna Girardot.
Ah
en tout
oui,
cas, très intense.
Très intense, elle se donne physiquement, psychologiquement, nerveusement. C'est un pari d'adapter ce récit autour de ce personnage très ambigu qui devient prostituée par choix. Aussi, est-ce que c'est pour ses intérêts parce qu'elle est obsédée sexuelle? Mais Anissa Bonnefond, grâce à son regard de femme, le fameux female gaze, y parvient avec vraiment une certaine dextérité.
Merci Sophie. Alors dans un autre registre, au cinéma cette semaine, on l'attendait, c'est le nouveau film de Gad Elmaleh en pleine quête spirituelle. Ça s'appelle Reste un peu. C'est un film très personnel. Il fait jouer ses propres parents, sa propre sœur, dans leur propre maison familiale.
J'ai une chambre là-bas.
c'est la chambre des petits.
Pourquoi toi, tu es quoi maintenant? Un grand. Reste avec nous, chérie.
J'ai demandé le baptême et je vais me faire baptiser.
T'es pas sérieux là?
Tu veux pas te convertir au catholicisme?
Mais c'est quoi ça? J'ai trouvé dans la valise de Gad. Touche pas avec les doigts. Tu changes de Dieu, change tes parents. Fais-toi adopter.
On n'a pas envie de te perdre.
Alors c'est vrai que c'est différent, on est très loin de Coco, en même temps il y a beaucoup d'émotions, mais on retrouve la patte de Gad, il y a de l'humour quand même, Franck Vallière.
Oui, ça va être très amusant de voir, une fois que la fanbase il sera allé et accepte cette proposition, de voir comment se déroulent les choses ensuite. C'est-à-dire que c'est ni Chouchou, ni Coco. Mm. Et moi, la première fois que j'ai entendu parler du projet, je me suis dit, bon, mais il va traiter ça à la Borat, à la Sacha Baron Cohen. Et en fait, quand on m'a donné rendez-vous au collège des Bernardins pour faire son interview, j'étais là, waouh, en fait, non, on est dans un truc. Et j'ai vu le film. Et là, effectivement, c'est un truc très intime, presque tourné à la taïwanaise, c'est-à-dire à l'arrache, avec sa famille. C'est en numérique, ça bouge un peu. Et. C'est compliqué de parler de la religion aujourd'hui. Mmh. Alors il parle donc avant tout de la sienne, même s'il renvoie un petit peu dos à dos tout le monde.
Mais parce qu'il est juif marocain, donc il doit annoncer à ses parents juifs marocains qu'il veut se convertir au catholicisme.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que la religion est souvent prosélyte, alors que la spiritualité reste de l'ordre de l'intime et qu'un peu de tolérance ferait pas de mal. Alors certains trouveront ça un peu mou, mais moi je trouve ça plutôt habile.
Eh bien, on va écouter vos réactions justement.
Bravo, parce que c'est un très beau chemin. Il y a un très beau message sur les religions.
Il n'y a pas toujours dans le sens où on peut penser qu'il irait. J'ai trouvé que ce côté utiliser ses vrais parents, sa sœur, utiliser son histoire, mais en faire un film, c'était assez intéressant.
On sent que Gad Elmaleh est sincère et qu'il présente sa démarche de façon délicate et profonde.
Et pour terminer hein, cette semaine riche en sorties, Les Engagés, Benjamin Lavergne incarne David qui, après avoir percuté un jeune migrant, va être bouleversé par son destin et va décider de l'aider.
Tu sais ce qu'il a traversé avant d'arriver ici? Il a vécu l'enfer. T'as encore faim?
Tu crois qu'il a quel âge?
Il m'a dit 15 ans. Les flics, ils ont le droit de prendre des gens et de les balancer comme ça? Mais c'est des réfugiés politiques, tous ces gens. Ça les rend moins humains?
Vous avez besoin de bénévoles comme nous.
Sophie.
C'est un film militant signé par Émilie Frèche, dont, qu'on avait déjà remarqué au scénario, notamment chez Yvan Attal, par évidemment ses nombreux livres, et qui veut ouvrir les yeux du grand public sur le traitement réservé aux migrants quand ils arrivent en France, ou en tout cas ils essayent d'y arriver. C'est tiré de faits réels, hein, c'est 7 de Briançon qui ont été condamnés pour aider des migrants finalement relaxés, et de là elle tire cette fiction qui est vraiment assez bouleversante, et où la montagne, le décor magnifique de Briançon, joue un personnage qui est plutôt important, étant donné que tout se joue là, dans le froid, avec ces jeunes gens qui sont fliqués, qui sont surveillés par des hélicoptères. Et Benjamin Lavergne est évidemment absolument incroyable dans ce rôle
comme
d'un
toujours.
Kiné qui ne s'attendait pas du tout du jour au lendemain à devenir militant. Rien ne le prédestinait à ça. Et puis voilà, il percute ce gamin. Il dit, il faut que j'y aille. C'est ma morale avant tout. Là-dessus, c'est vraiment réussi, même si effectivement, ici et là, on voit que c'est un premier film. C'est inégal.
Benjamin Lavergne qui va bientôt incarner l'abbé Pierre. On attend aussi ce projet avec impatience. Et c'est déjà la fin de ce clap. Merci à tous les deux, Sophie Rosemont, Franck Vallière qui était à mes côtés cette semaine. Aujourd'hui, je vous le rappelle, j'ai eu le plaisir de recevoir Roche Dizem pour nous parler de la sortie du film Les Miens. Ce sera la semaine prochaine, mercredi prochain. Et tout de suite, je vous laisse en compagnie de Pierre de Villeneuve pour Europe Soir. À la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas d'aller au cinéma.
Voir les Fables du Square.
Exactement.
Et les Amandiers.
Voilà. Bon week-end à vous sur Europe 1.